Vous écoutez France Culture.
Jeu de société de David Lodge. Dans une adaptation de Juliette Eman. Sixième épisode.
Le mercredi matin suivant, Robin Penrose fut assez étonné de se retrouver dans le bureau de Vic Wilcox. Et celui-ci parut plus étonné encore, à en juger par l'expression qui apparut sur son visage lorsque Shirley la fit entrer.
Encore vous ?
C'est mercredi. Vous m'avez pas fait dire de ne pas venir.
À vrai dire, je ne pensais pas que vous oseriez vous montrer de nouveau ici.
Je peux repartir si vous voulez. Rien ne me ferait plus plaisir.
Pourquoi vous êtes venue alors ?
Je me suis engagée à venir tous les mercredis jusqu'à la fin du trimestre. Je regrette de l'avoir fait, mais c'est comme ça. Si vous voulez annuler le contrat, surtout, ne vous gênez pas.
Ouais, puisque vous êtes là, vous n'avez qu'à rester. Vous serez capable de m'envoyer quelqu'un d'encore pire que vous.
Cette grossièreté constituait une provocation suffisante pour que Robin s'en aille. Mais elle hésita. Wilcox ne s'était manifestement pas plaint officiellement de sa conduite de mercredi dernier. Si elle abandonnait maintenant le système de stage, tout éclaterait au grand jour. Elle ne voyait pas comment elle pourrait expliquer et justifier toute cette affaire avec Danny Ram devant Philippe Swallow, son chef de département.
Mais comprenons-nous bien. Tout ce que vous voyez et entendez pendant que vous êtes ma stagiaire doit rester confidentiel.
D'accord.
Gardez votre veste, on va sortir. Je vous amène à un rendez-vous d'affaires avec Norman Cole, le directeur général de Fundrax.
Salut Vic. Je vois que ta jolie stagiaire est de retour. Qu'elle soit un peu maso. Comment allez-vous, ma chère ?
À bientôt, Ryan. Allez, venez. Pringle et Fundrax fournissent tous les deux des pièces à un fabricant de pompes diesel, Rollinson. Pringle fournissant les blocs cylindres, Fundrax les têtes de cylindres. Récemment, Rollinson a demandé à Pringle de baisser leur prix de 5%, prétendant avoir une offre d'une autre firme à ce prix-là. Bien sûr, ce n'est peut-être que du bluff, mais la concurrence est si féroce qu'il est possible qu'une autre compagnie essaie de prendre une partie du marché en offrant un prix ridicule. Toute la question est de savoir quel prix ils offrent et qui est notre concurrent. C'est pour ça que je veux voir Norman Cole. Je veux savoir si Rollinson lui demande le même rabais sur ses têtes de cylindre.
Alors comme ça ? Mademoiselle est stagiaire pour l'année de l'industrie. Je veux bien te croire, Vic. Tout un tas de gens ne te croiraient pas. Qu'est-ce que vous faites à l'université, mademoiselle ?
Docteur. Docteur Penrose.
Oh ! Comme ça, vous êtes dans la médecine ?
Non, j'enseigne la littérature anglaise.
Et la littérature féminine.
Je ne suis pas très porté sur la littérature féminine. Mais j'aime bien un bon livre. Actuellement, je suis en train de lire « Les oiseaux se cachent pour mourir ».
Je regrette, je n'ai pas lu.
Alors, comment vont les affaires, Norman ?
Faut pas se plaindre. Et toi, de ton côté ?
Ça va.
Pendant quelques minutes, les deux hommes eurent une conversation un peu décousue sur leur travail. Vic évoqua une collecte d'argent pour une cause charitable dans laquelle ils étaient impliqués tous les deux. Finalement, Cole jeta un coup d'œil à sa montre.
Tu voulais me demander quelque chose, Vic ?
Non, je fais seulement quelques visites pour donner une idée à cette jeune dame de ce qu'est notre métier. Mm-hmm. On va pas abuser davantage de ton temps. Pendant que j'y suis, tu n'aurais pas reçu une lettre du service d'achat de chez Rollinson ces temps-ci ? Tu peux parler. Le docteur Penrose sait parfaitement que tout ce que nous disons ici ne devra jamais sortir de cette pièce.
Non, pas que je sache. Ce serait à quel propos?
Pour demander un rabais sur vos prix, de 5% environ.
N'en ai pas le moindre souvenir. Apportez-moi le dossier Rollinson, s'il vous plaît.
Oui, monsieur Cole.
Tu as donc des ennuis avec Rollinson, Vic?
Quelqu'un essaie de nous couper l'herbe sous le pied. J'aimerais savoir qui c'est.
Une firme étrangère, peut-être.
Je vois pas comment une firme étrangère pourrait faire des prix plus bas. Pourquoi s'en donnerait-elle la peine, d'ailleurs? Les quantités sont trop faibles. Et si tu ajoutes le prix du transport, ça n'a plus aucun sens. Non, c'est une autre compagnie britannique, tu peux en être sûr.
Voilà, monsieur.
Merci. Rien d'anormal, Vic.
Dis-moi, tu prends combien pour tes têtes de cylindre, juste pour savoir?
Tu ne t'attends tout de même pas à ce que je réponde à cette question, Vic.
Faut que je m'en aille.
Tu n'emmènes pas tes stagiaires?
Quoi? Ah oui, oui, bien sûr.
Tu peux me la laisser, si tu veux. Le quatrième protocole. Voilà encore un bon livre. Vous l'avez mis?
Non.
Allons-y.
Au plaisir, mademoiselle.
Vous ne vous seriez pas servi de moi, par hasard, pour rencontrer Norman Cole?
Vous m'avez été utile. Ça ne vous fait rien, j'espère. Vous me devez bien ça après la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que vous pensez de lui?
Je n'apprécie pas beaucoup ses goûts littéraires.
C'est un comptable. Les directeurs généraux dans ce métier sont soit ingénieurs, soit comptables. Je n'ai pas confiance dans les comptables.
Oui. Il m'a paru un peu sournois. Tout ce cirque avec sa pipe. C'est un prétexte, en fait, pour ne pas avoir à regarder les gens droit dans les yeux.
Sournois est bien le mot qui convient.
Vous pensez alors qu'il cache quelque chose?
Je pense que c'est peut-être lui, le troisième larron.
Vous voulez dire celui qui offre un rabais de 5%?
Qui est censé offrir 5%. Il n'en offre peut-être que 4, au fait.
Et comment allez-vous faire pour le savoir?
En allant voir Ted Stocker, le directeur général chez Rollinson, à Leeds. Cet après-midi même.
Quoi? Aujourd'hui? Allez, retour.
Pourquoi pas?
Ce n'est pas la porte à côté.
J'aime bien conduire. L'endroit est sympa. Que prenez-vous?
Je crois que je vais prendre une omelette.
Inutile de vous restreindre, c'est la compagnie qui paie.
Ah, alors, je vais prendre, pour commencer, un demi-avocat fondant avec une vinaigrette française piquante. Ensuite, des scampis tout frais grillés à point. Et une petite salade campagnard bien croquante. Ah, et aussi un petit pain complet fait maison avec dessus de délicieuses graines de sésame.
Et vous buvez quelque chose?
Qu'est-ce que vous prenez?
Je ne bois jamais à midi. Mais ça ne vous empêche pas de prendre quelque chose.
Alors, un verre de vin blanc.
S'il vous plaît.
Oui.
Je prendrai un rhum steak frites et un perrier jus d'orange.
Et pour la jeune dame?
Un demi-avocat, des scampis grillés avec la salade campagnarde.
Ça marche.
Je ne dis pas ça parce que tu as affaire.
Et moi de te protéger, mais non.
Si vous voulez vraiment comprendre comment marchent les affaires, c'est pas moi que vous devriez suivre partout, mais quelqu'un qui dirige sa petite entreprise et qui emploie, disons, 50 personnes. C'est comme ça que commencent des entreprises comme Pringle. Un jour, quelqu'un se dit qu'il peut faire un meilleur produit et un meilleur marché que quiconque. Et il monte une usine avec une petite équipe d'employés. Ensuite, si tout va bien, il prend d'autres ouvriers et fait entrer ses fils dans l'entreprise pour qu'ils prennent sa succession quand il se retirera des affaires. À ce moment-là, ou bien les fils ne sont pas intéressés, ou bien ils se disent « Pourquoi risquer tout notre capital dans cette entreprise alors que nous pourrions la vendre à une plus grosse compagnie et investir l'argent dans quelque chose de plus sûr ?» La firme est alors vendue à un conglomérat comme la compagnie des Midlands et un pauvre bougre comme moi est engagé pour la diriger en tant que salarié.
Le capitalisme décadent, quoi.
Qu'y a-t-il de décadent dans tout ça ?
Je veux dire, c'est la période où nous vivons, celle du capitalisme décadent. Les grosses multinationales mènent le monde.
Non, ne croyez surtout pas ça. Il y aura toujours des petites entreprises. Tous ces hommes qui sont ici travaillent pour des firmes comme Pringle. Et je veux bien parier que tous, s'ils avaient le choix, préféreraient diriger leur propre entreprise. Certains le feront un jour, et puis après quelques années, ils vendront leur entreprise et le processus recommencera. C'est le cycle du commerce comme le cycle des saisons.
Et vous préféreriez diriger votre propre entreprise ?
Naturellement.
Et quel genre d'entreprise ?
Tom Rigby. Vous vous rappelez le directeur de la fonderie ? Tom et moi avons pensé à un petit gadget, une sorte de spectromètre qui donnerait tout de suite la composition du métal fondu, sur place dans l'atelier. Si ça marchait, ça éviterait d'avoir à porter des échantillons au labo pour les faire analyser. Toutes les fonderies du monde seraient obligées d'en avoir un. Ouais. Et ça pourrait faire une jolie petite entreprise.
Pourquoi ne vous lancez-vous pas alors ?
J'ai un prêt à rembourser sur ma maison, j'ai une femme et trois enfants paresseux à ma charge, comme la plupart de ces pauvres bourgeois.
Un petit dessert, messieurs dames.
Oui, je vais prendre une tarte aux pommes.
Bien, monsieur. Pour la jeune dame.
Je vous recommande quelque chose de doux et sucré.
Une mousse au chocolat, peut-être.
Non, un cheesecake. Voilà,
c'est ça. Moins souple que vous voulez dire. Comme vous y allez.
Auriez-vous l'amabilité de faire comprendre à ce jeune homme que je ne suis pas votre nana ?
Quoi ?
Vous n'avez pas remarqué comment il s'est comporté pendant tout repas ?
Je pensais qu'il était pédé, voilà tout. Les garçons le sont souvent, vous savez.
Je crois surtout qu'il espère avoir un gros pourboire.
Il va plutôt avoir une mauvaise surprise.
Je pense que cette dernière fois... Voilà, pour la jeune dame. Et voilà, pour monsieur. Ensuite, vous prendrez bien une petite liqueur détendante.
Apportez-nous simplement le café et l'addition. J'ai un rendez-vous à Leeds à 3h.
Merci pour le repas.
Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est pris sur les frais de déplacement.
Puis-je mettre un peu de musique ?
Allez-y. Je voulais chercher une station. Vous aimez ce genre de musique ?
Oui. Pas vous.
Ça ne me gêne pas.
Mais vous préférez Randy Crawford ?
Elle n'est pas si mal que ça.
Vous ne la trouvez pas un peu... doucereuse ?
Doucereuse ?
Sentimentale, quoi.
Non.
Regardez, c'est la route de Haworth. Les Brontë.
Qui c'est, ça ?
Des romancières. Charlotte et Emily Brontë. Vous n'avez jamais lu Jane Eyre et Léo de Hurlevent ?
J'en ai entendu parler. Ce sont des romans féminins, non ?
Ils parlent de femmes. Mais ce ne sont pas des romans féminins au sens étroit du terme. Ce sont des classiques. Deux des plus grands romans du 19e siècle, en fait. Bien sûr, la plupart des gens lisent ces romans comme si c'était des romans à l'eau de rose. Surtout Jane Eyre. Il faut déconstruire le texte pour faire apparaître les contradictions politiques et psychologiques qui y sont inscrites.
Hein ?
C'est dur à expliquer si vous ne les avez pas lus.
Le docteur Penrose comprend parfaitement que tout ce que nous allons dire est confidentiel, tel.
Du moment que tu es d'accord, Vic, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Je n'ai rien à cacher.
Que puis-je faire pour toi?
Tu nous as envoyé une lettre.
En effet.
Je crois qu'il y a eu une faute de frappe. Il est dit que tu aimerais avoir un rabais de 5% sur les primes de blocs cylindres.
C'est un drôle de phénomène. T'es un drôle de phénomène, Vic.
Y a pas d'erreur?
Pas d'erreur.
5%, c'est ridicule.
Si tu ne peux pas, d'autres le pourront.
Quels autres?
Il sait parfaitement que je ne peux pas lui répondre. Tu sais parfaitement que je ne peux pas te répondre, Vic.
C'est une firme étrangère?
Je ne peux pas te répondre là-dessus non plus.
La pilule serait dure à avaler, mais je pourrais descendre, disons, de 2% sur les blocs 4 cylindres.
Tu perds ton temps, Vic.
2,5%. Il y a longtemps qu'on fait des affaires ensemble, Ted.
C'est mon devoir d'accepter l'offre la plus basse, tu le sais bien. Il le sait bien.
La qualité ne sera pas la même.
La qualité est parfaite.
Alors tu t'approvisionnes déjà chez eux?
Oui, la qualité est parfaite.
Je vois pas comment ces gens-là peuvent gagner de l'argent dans cette affaire.
Ça, c'est leur problème, j'ai assez des miens.
Les affaires ne marchent pas fort, alors?
On vend beaucoup au tiers-monde. Des pompes à irrigation, surtout. Les pays du tiers-monde sont fauchés. Les banques ne veulent plus leur prêter d'argent. Notre carnet de commandes avec le Nigeria a chuté de 50% par rapport à l'an dernier.
C'est affreux.
Absolument. On va peut-être être obligé de réduire le temps de travail.
Non, je voulais dire pour le tiers-monde.
Ah, oh, le tiers-monde.
3%, c'est mon dernier prix. Je ne peux absolument pas descendre plus bas. Dis 3% et on conclut le marché.
Désolé, Vic. Tu as encore 2% au-dessus de ce qu'on m'offre ailleurs.
Avez-vous fait tous ces calculs si vous étiez déjà disposé à aller jusqu'à 3%?
Pour lui donner l'impression qu'il me forçait la main et qu'il faisait une affaire. Il ne s'est malheureusement pas laissé prendre au jeu. C'est un vieux renard, Ted Stoker.
Il ne vous a pas dit quelle était l'autre compagnie?
Je ne m'attendais pas à ce qu'il me le dise. Je voulais simplement voir la tête qu'il ferait.
Et qu'est-ce que vous en avez conclu?
Il ne bluffe pas. Il y a bel et bien quelqu'un qui lui offre 4 ou 5% en dessous de nos prix. Le pire, c'est que Rawlinson s'approvisionne déjà chez lui. Ce qui veut dire que je vais pouvoir découvrir qui c'est.
Comment cela?
Je vais demander à un ou deux de nos commis de se poster en voiture devant chez Rawlinson et de relever les noms inscrits sur tous les camions de livraison qui entrent dans l'usine.
Ça en vaut vraiment la peine, tout ce cirque? Combien ce marché vous rapporte-t-il réellement?
Pas tant que ça. Mais c'est une affaire de principe. Je n'aime pas m'avouer vaincu. Ça vous dérange si je fume?
J'aimerais mieux pas. Puis-je remettre Radio Classique?
J'aimerais mieux pas.
D'enfance, dans l'espoir d'épouser Henry Carson, le beau et brillant fils d'un industriel, et ainsi d'obtenir une meilleure vie pour elle et son père. Dans la première moitié de l'ouvrage, l'histoire...
Robin, on te demande au téléphone.
Au téléphone?
Oui.
Bon, excusez-moi, je fais très vite.
Ça avait l'air important. La secrétaire de je ne sais qui. J'ai pensé que ça pouvait être ton éditeur.
Ah, oh, peut-être. Oui?
C'est Shirley. Monsieur Wilcox veut vous parler, je vous le passe.
Oui, oui, c'est Fundrax. J'ai pensé que vous aimeriez savoir. Deux de nos commis ont attendu dans une voiture devant Rawlinson pendant 2 jours et 1 nuit. Ils ont pris les noms de tous les camions qui sont entrés, et le nom qui revenait le plus souvent était celui d'une firme des Midlands, nommée GTG. Et par bonheur, mon délégué au transport avait travaillé chez eux. Alors il a passé un coup de fil à ses anciens copains, et il a vite fini par découvrir ce qu'ils livraient à Rawlinson. Et devinez quoi? des blocs 4 cylindres de chez Fundrax.
Mais vous m'avez fait venir au téléphone pour me dire ça?
Vous n'avez pas de téléphone personnel?
Non. De plus, je suis en plein milieu d'un séminaire.
Ah, je suis désolé. Et pourquoi votre secrétaire l'a pas dit à Shirley?
Je n'ai pas de secrétaire particulière. Nous avons une secrétaire pour 15 enseignants. Et elle n'est pas dans le bureau pour l'instant. Elle doit être dans la réserve, en train d'ouvrir des lettres à la vapeur pour que nous puissions réutiliser les enveloppes. Y a-t-il autre chose que vous vouliez me dire? Ou puis-je retourner à mon séminaire maintenant?
Non, non, c'est tout. À mercredi, alors.
Au revoir.
Lorsque Robin Penrose raccrocha, Vic Wilcox reposa le combiné sur son support d'un geste lent mais décidé, comme s'il cherchait à convaincre un observateur invisible que c'était bien ça qu'il avait voulu faire. Il n'appréciait pas la manière expéditive avec laquelle Robin Penrose avait mis un terme à la conversation et l'avait rabroué. En fait, il avait mal calculé son coup. Il s'attendait à des félicitations et à la place, il s'était fait frotter les oreilles.
Pour signature, c'est la lettre que vous m'avez dictée ce matin.
Vous avez vu cette présentation? Quel boulot de sauvage. Retapez-moi cette lettre, Charlet.
C'est toujours comme ça que je cite les paroles de quelqu'un? Vous en êtes jamais plein jusqu'ici?
Eh ben, je m'en plains aujourd'hui. Refaites-la, vous voulez bien?
Brian vous a parlé de son idée de calendrier pour Pringle, je crois.
Oui, en effet.
Il a dit que vous n'étiez pas très chaud.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ça serait une belle occasion pour Tracy.
Une belle occasion de se prostituer, oui.
Que voulez-vous dire?
Vous voulez vraiment voir des photos de votre fille en tenue d'Ève sur tous les murs, exposées à tous les regards?
Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Et les galeries de peinture, alors?
Les galeries de peinture?
Elles sont pleines de nus, des tableaux de maîtres.
Mais c'est pas la même chose.
Mais je vois pas la différence.
Vous avez vu des types visiter une galerie de peinture et se dire en plaisantant devant une représentation de Vénus ou de je ne sais qui, bah, je me la taperais bien un samedi soir.
Oh.
Hey, ou ramener la photo chez eux pour se branler.
Je sais pas quel mot je vous applique aujourd'hui.
Moi non plus, se dit Vic Wilcox, un peu honteux de ce coup d'éclat tandis que la porte se refermait derrière elle. Il lui fallut en fait plusieurs semaines avant de comprendre qu'il était amoureux de Robin Penrose.
C'était Jeux de société de David Lodge dans une adaptation de Juliette Eman. Sixième épisode. Traduction Yvonne et Maurice Couturier. Avec Féodor Atkin, le narrateur, Sophie Guédon, Robin Penrose, Philippe Bautier, Vic Wilcox, Marie-Christine Letor, Marjorie Wilcox, Christiane Billet, Shirley, Julien Cibre, Brian Everthorpe, Éric Aymon, Norman Cole, Christophe Lemay, Ted Stocker, Yves-Fabrice Lebeau, Robert Sutcliffe, Antoine Berry-Roger, le serveur, et les voix de Claire Bauger, Anne Carr, Michel Baladi, Marc-Henri Lamande, Romain Tremblot. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Claire Levasseur. Assistance technique et montage, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Jeux de société de David Lodge est publié aux éditions Rivage.